Prions et nous allons continuer dans nos études. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta grande justice aussi, qui ne se complaît pas, qui ne peut pas tolérer le péché, mais qui a fourni un moyen de nous réconcilier avec toi, la mort de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous avons tendance à penser que si nous sommes venus à toi, tu dois toujours nous pardonner et que tu vas bénir quel que soit notre style de vie. Mais Seigneur, le passage que nous allons voir aujourd'hui nous remet sur la vérité, sur les rails. Merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité, Seigneur. On peut entendre beaucoup de choses, on peut avoir des notions, des préjugés, pensant que tu es un Dieu d'amour, tu es un bon Père Noël qui pardonne tout et qui nous gâte même si nous ne le méritons pas. Seigneur, on oublie souvent de parler de ce que tu es un Dieu jaloux, que tu es un Dieu qui peut être dans une colère terrible contre le péché. Je te prie vraiment que tu saisisses nos cœurs ce matin, que tu nous reprennes dans notre complaisance, dans notre apathie, dans notre manque d'engagement. Seigneur, parce que c'est ta volonté et c'est parce que tu nous aimes que tu veux qu'il en soit ainsi. Enseigne-nous ce matin par ton Esprit Saint, par des dons de parole, de prophétie, de connaissance, tous ces dons dont Tony nous a parlé la semaine dernière. On te remet notre Église, Seigneur, qu'elle grandisse en connaissance de toi, en amour de toi et en service pour toi et de toi, Seigneur. Et on sait que ça passe par la connaissance, l'amour et le service des uns des autres, Seigneur. Sois béni par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. La semaine dernière, Tonio a terminé une série de 3 études sur le Saint-Esprit qui était très importante parce qu'elle était fondée sur la Bible et non pas sur des traditions d'Église qu'on peut avoir suivant notre formation d'église originale. Et si vous n'étiez pas là, je vous invite à aller écouter ces messages. 3 messages, c'est pas très long, mais c'est fondamental pour qu'on soit capable d'invoquer le Saint-Esprit à juste titre dans les conditions bibliques et non pas en donnant plus d'importance, par exemple, au Saint-Esprit qu'à Jésus-Christ. Le but du Saint-Esprit, c'était de glorifier Jésus-Christ. Et souvent, dans certaines églises, Jésus-Christ et le Père, on les laisse de côté et on met le Saint-Esprit comme le seul. Et il est important, il est Dieu. Tonio l'a très bien expliqué. Donc, si vous n'étiez pas là ou si vous avez raté une session, allez les écouter. C'est pour ça qu'on enregistre. Et je sais que vous avez accès à 50 000 messages en ligne et qu'il y a des grands prédicateurs. Mais si vous voulez faire partie du corps de l'Église, il faut qu'on soit tous en harmonie, qu'on soit tous sur la même page. Donc ces enregistrements, ce n'est pas fait pour faire bien, c'est fait pour votre service. Si vous ne pouvez pas être là un dimanche, vous écoutez le message. Et c'est souvent, on se dit « zut alors ». Telle personne n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Les messages sont enregistrés. Amen. Pour nous, on va continuer dans l'étude des petits prophètes. Et on arrive au plus grand des petits prophètes, Zacharie. Je parle en termes de volume des écrits. On a vu, ça fait un moment déjà, avant l'été, on avait étudié, Tonio avait fait un enseignement sur le prophète Agé. Le prophète Agé, qui était beaucoup plus âgé que Zacharie. Et on avait dit qu'on abordait les prophètes post-exiliques, ça veut dire ceux qui viennent après l'exil. Vous vous souvenez peut-être que Dieu a permis ou a fait que son peuple soit emporté à Babylone. Daniel, le grand prophète, nous avait dit qu'il y aurait quatre grands royaumes. Il y avait le royaume de Babylone, ce qu'on appelait aussi les Chaldéens. Le plus célèbre des rois, c'était Nabuchodonosor. Mais il a été remplacé par le royaume des Mèdes et des Perses, l'empire médo-persique. Et puis, il nous a dit aussi qu'il y aurait ensuite le plus grand royaume de la terre, ce serait les Grecs, avec le roi Alexandre Ier, et puis qu'il serait remplacé au point de vue de la domination par l'Empire romain. Il ne parlait pas des USA, il ne parlait pas de la Russie, mais il parlait de l'Empire romain. Il parle même dans sa prophétie de Daniel 9, et plusieurs des prophéties de Daniel, qu'il y aura en fait un empire romain reconstitué. Beaucoup pensent que c'est en fait l'Union européenne, de qui sortira un antéchrist qui précipitera les choses à la fin des temps. Ce qui est intéressant, c'est que notre livre, Zacharie, parle de ces prophéties. Il y a des prophéties messianiques, donc du Messie, qui sont pour la première venue de Jésus-Christ, et puis qu'il va parler aussi du deuxième retour, de la fin des temps de Jésus-Christ. Donc on va apprendre beaucoup de choses dans ce prophète Zacharie. Vous vous souvenez que il y a un verset qu'on aime bien s'accaparer ou se réconforter avec ce verset, c'est le verset de Jérémie 29, 11. Je connais les plans que je forme à votre sujet, plans de bonheur et non de malheur. Dans la version second 21, Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir, pour l'exil. Alors ça, c'est un passage très important. Je pense qu'on est justifié en tant que peuple de Dieu, l'Église aussi, de penser que Dieu connaît les projets qu'il forme pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais le contexte, on l'oublie souvent. Et une chose qu'on oublie souvent, c'est que si on regarde juste le verset 10, on connaît le verset 11 souvent, mais on oublie le verset 10 qui ramène le contexte historique. En revanche, voici ce que dit l'Éternel, « Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. » Dieu avait décidé, dans sa souveraineté, de punir le peuple d'Israël en les laissant partir en exil. Ils n'avaient pas considéré, ils n'avaient pas célébré, ils n'avaient pas vraiment observé les commandements de Dieu pendant 490 ans. Et notamment le fait que tous les 7 ans, ils devaient prendre une année sabbatique, se consacrer non pas à partir en vacances au Club Med, faire le tour du monde, mais se consacrer davantage à Dieu, laisser la terre se reposer, laisser la terre en friche et faire preuve de foi en sachant que sans leur travail, Dieu allait pourvoir. Mais l'homme étant ce qu'il est, nous-mêmes on ferait sans doute la même chose, on s'est dit c'est bien joli tout ça, mais on va continuer de travailler. Dieu nous dit qu'il faut prendre un sabbat, qu'il faut se reposer au moins un jour par semaine, mais avec le business que j'ai ou mon entreprise, je ne peux pas me permettre cela. Et donc, ils ne s'étaient pas permis de prendre une année sabbatique tous les 7 ans, pendant cette durée de temps. Et donc, ces 70 ans où ils allaient partir en exil, c'était pour rattraper toutes les années qu'ils n'avaient pas données à l'Éternel. intéressant de voir que Dieu a de la suite dans les idées. Et tout ça, c'est, il faut être dans la Bible, mes amis. Il faut lire, il faut faire des rapprochements. Sinon, on vient, c'est, il faut être gentil et tout ira bien. Non, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus embriqué. Les choses se tiennent, c'est fantastique. On est émerveillé quand on commence à voir que le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament caché, que l'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament révélé. Et on n'est pas seulement des chrétiens du Nouveau Testament, on est des chrétiens de toute la Bible, parce que c'est tout le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'on veut étudier toute la Bible, tout le conseil de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont partis ils vont souffrir pendant 70 ans. Mais Dieu leur promet qu'au bout de ces 70 ans, il va les ramener. Et c'est ce qu'il fait. Il commence à agir. Et Dieu est souverain dans la façon dont il mène les choses. Aujourd'hui, on se dit, oh là là, tous ces réfugiés, qu'est-ce qui se passe? Dieu est derrière tout ça. Dieu utilise l'histoire du monde pour accomplir ses desseins. Il veut répandre sa parole. C'est difficile d'aller dans certains pays où il y a des persécutions qui règnent, mais les gens qui sont persécutés viennent ici. À nous de les accueillir et de leur donner la parole de Dieu et de leur parler et de les convaincre de l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui les convainc de péché, de justice et de jugement. Mais Dieu utilise la géopolitique pour accomplir son but. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes comme ballotté par l'histoire. D'un seul coup, il y a l'Empire, il y a l'URSS. Ouh là là ! L'URSS, c'est intéressant, ça a duré que 70 ans. Il y a les États-Unis. Waouh ! Maintenant, il y a la Chine. Waouh ! Dieu utilise la géopolitique pour accomplir ses desseins. Et ses desseins sont des destins de paix et de justice. Ils étaient prisonniers à Babylone. Et puis, c'est là qu'en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus a pris Babylone et établi l'empire des Perses et des Mèdes, l'empire médo-persique. Et il a même utilisé un empereur païen. Il lui a parlé. Et cet homme a décidé d'autoriser le retour des exilés à Jérusalem en 538. Ils ont débuté la reconstruction du temple en 536, avant Jésus-Christ, on compte à rebours. Hein. Et puis là, on a eu le ministère de Hagé, que Tonio avait couvert. Et puis, on arrive à celui de Zacharie avec la reprise des travaux. Il y a eu une interruption des travaux de reconstruction du temple parce qu'il y avait de l'opposition. Une chose qui est remarquable, c'est qu'en fait, sur les millions de Juifs qui avaient été emmenés en déportation, on lit dans Esdras, il y a un chiffrage incroyablement précis. On dirait qu'ils utilisaient des ordinateurs avec des cartes à puces, tellement c'est précis, sérieusement. Il y a 42 360 juifs qui sont retournés. On dit c'est beaucoup. En fait, c'était une goutte d'eau dans la population qui s'était installée à Babylone. Babylone, c'était joli. Le climat était plutôt bon. Il y avait du négoce, il y avait du commerce. On pouvait s'enrichir, on pouvait s'installer bien. Et l'idée de quitter tout ça pour retrouver Jérusalem qui était en ruine. Il y en a très peu, en fait, qui ont voulu le faire. Un tout petit pourcentage. Ce qui est bien quand on étudie la Bible, et surtout l'Ancien Testament, parce que c'est un peu plus difficile à rattacher à notre propre expérience, c'est de se dire, est-ce que moi aussi, je ne me suis pas installé à Babylone? Est-ce que l'Église, j'y vais un peu comme par tradition? Ou est-ce que c'est vraiment la chose, est-ce que ma foi est la chose la plus importante de ma vie? Ça va, toi, tu es pasteur, tu es payé pour ça. C'est vrai, c'est un privilège. Pas sans sacrifice, mais c'est un privilège et je le reconnais volontiers. Je remercie Dieu de m'avoir appelé dans cette voie. Mais on peut se laisser accaparer par les soucis du monde, par le désir d'amasser des richesses. et de reléguer au deuxième rang, au troisième rang, au quatrième rang, Dieu, notre foi en lui, notre appel à le servir comme quelque chose de pas urgent. Et là, Dieu veut... C'est d'où l'intérêt d'étudier l'Ancien Testament. Il nous a, ces choses nous ont été enseignées pour qu'elles nous servent de leçon à nous sur qui la fin des temps est arrivée. C'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens. On ne fait pas l'Ancien Testament pour faire des jolis dessins pour l'école du dimanche. Et il y a un danger. Si vous faites de l'enseignement à l'école du dimanche, de grâce, faites savoir aux enfants que ce sont des événements réels, qui se sont réellement passés et qui ont une portée actuelle pour ma vie. Ce n'est pas une jolie histoire d'un gars qui a été jeté dans une fosse avec quatre lions et puis ils ont dormi, ils étaient gentils comme tout. Parce qu'après, les enfants vont être confrontés à la vie, ils vont arriver à la fac, ils vont arriver au collège, et on va leur dire, tout ça, c'est des histoires de bébés. C'est bien de leur introduire ces réalités, mais toujours donnez-leur l'impression que vous savez que c'est vrai et que c'est important de comprendre ces choses. Dieu nous les a données comme des exemples pour nous instruire. Il est le roi des pédagogues. On n'a pas besoin d'aller chercher des nouvelles méthodes pour enseigner, contrairement à ce qu'on pense dans l'éducation nationale. Le meilleur enseignant, c'était Jésus. Il parlait en parabole. Il parlait de choses qu'on pouvait voir et il en tirait des leçons spirituelles. De même avec l'Ancien Testament, on tire d'événements réels, historiques, authentifiés, des leçons pour notre vie personnelle, notre vie d'église, notre vie en tant que nation, en tant que continent. On a des leçons à recevoir. Et donc ce matin, on aborde ce prophète 520 avant Jésus-Christ. Et on est en 2018 déjà. Waouh ! Est-ce qu'on en a quelque chose à faire ? Oui ! C'est vital. Je veux vous donner un désir d'apprendre ces choses, de les connaître, d'être familier, d'essayer de les relier ensemble. C'est souvent la chose la plus difficile. Alors c'est bien de... Il faut que vous lisiez la Bible tous les jours. Il faut que vous priez tous les jours. C'est le béaba. Mais en même temps, si vous faites juste votre lecture du jour, vous allez vous poser des questions. Et suivant le temps dont vous disposez, vous direz, « Oh, j'ai pas le temps d'aller voir Jérémie 21, 29, 10. » Il parlait de ça aussi. « Oh, je verrai ça à un autre moment. » Maintenant, c'est le moment d'étudier. Maintenant, c'est le temps de rechercher, de trouver, d'avoir des habitudes d'études. Avec Tonion, on est en train d'organiser, on va proposer une étude pour ceux qui veulent aller plus loin avec la Bible, ceux qui veulent aller plus loin pour être des disciples. Mais c'est vital. Sinon, vous êtes des chrétiens du dimanche, c'est mieux que rien. Au moins, vous avez une foi. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvés. Mais est-ce que c'est vraiment un salut qui tient la route ? Est-ce que votre foi, elle est réelle ? C'est vos fruits qui vont vous le dire. Si vous faites une prière, c'est déjà bien. Et puis que vous pensez que vous êtes tranquille, vous avez une assurance, pas une assurance chômage, mais une assurance éternité. J'ai plus de soucis à me faire. Et vous vivez n'importe comment, ça ne va pas le faire. Parce que votre foi va être mise en question. Et Jésus va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Les paroles les plus terribles qu'on puisse imaginer. Et donc ce prophète, il va nous enseigner beaucoup de choses. Son livre comporte 14 chapitres. Aujourd'hui, on va voir le premier. On va peut-être aller un peu plus vite après, c'est parce qu'il y a une introduction. Mais... Il y a 31 personnes qui ont ce nom de Zacharie dans la Bible. C'était un nom assez répandu. Ça voulait dire « le Seigneur se souvient ». Le Seigneur se rappelle. Et souvent, c'est quelque chose qu'on invoque parce que quand on lit les promesses de Dieu, on espère qu'il se souvient de ses promesses. Il nous a dit qu'il ne nous laisse. Jésus nous a dit : je ne vous laisserai jamais. Je suis le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Je ne vous laisserai jamais tout seul. Ça, c'est une promesse sur laquelle on peut compter. Pourquoi ? Parce que Zacharie, c'est pas Jacques a dit, c'est Zacharie. Pour ceux qui connaissent le Simon Says, en français, c'est Jacques a dit. C'est pas biblique, c'est juste une allitération, Zacharie. Zacharie, il était jeune quand elle écrit son livre, on le voit au verset 4 du chapitre 2. On pense qu'il est né à Babylone et qu'il est revenu à Juda, en Judée, avec le gouverneur Zorobabel. Zorobabel, en 537, il était, on va lire les six premiers versets, si vous le voulez bien. Je lis dans la version à la seconde 21. Est-ce que quelqu'un a un numéro de page dans la Bible qu'on... 1058, si vous cherchez... 53. Zacharie. Le huitième mois, la deuxième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Bérékia et petit-fils d'Ido. L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ne soyez pas comme vos ancêtres auxquels les premiers prophètes proclamaient « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. » Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Vos ancêtres, où sont-ils ? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement ? Cependant, mes paroles et mes prescriptions dont j'avais chargé mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos ancêtres ? Ils sont revenus à moi, ils ont reconnu, l'Éternel, le maître de l'univers, nous a traités comme il avait décidé de le faire. Conformément à notre conduite et à nos agissements. Donc ça, c'est l'introduction de ce livre prophétique. Il dit qu'il est le fils de Bérékia et le petit-fils d'Ido. Ido. Quand on regarde la signification en hébreu de ces noms, c'est souvent quelque chose qui est intéressant, je vous invite à faire. Maintenant, avec Internet, avec des programmes de Bible, on peut facilement trouver ces ressources, ces significations. Zacharie, Bérékia, Ido. Zacharie, on l'a déjà dit, ça veut dire « Dieu se souvient ». Bérékia, ça veut dire « Dieu bénit ». Et Ido, ça veut dire « au moment voulu ». Autrement dit, ça veut dire « Dieu se rappelle et Dieu bénit au moment voulu ». C'est tout un programme. Et c'est tout l'enseignement de la Bible. Savoir qu'il y a un Dieu qui veut bénir. Un Dieu qui bénit, mais au moment voulu. Pas quand moi je décide que je veux être béni, tout de suite. Sans réserve, au maximum. On reconnaît la fidélité de Dieu qui se rappelle, l'amour de Dieu qui bénit et la souveraineté de Dieu qui décide du moment. Et donc, si vous rappelez du premier verset, vous avez déjà un message biblique à partager avec ceux qui sont autour de vous. Zacharie, Bérékia, Ido. Dieu se rappelle et il va bénir au moment voulu. Et ça, c'est un bon message parce que souvent les gens se disent « Mais si Dieu existe, si Dieu m'aime, pourquoi ces souffrances, pourquoi ces épreuves ?» On va voir aujourd'hui ces six versets, le message pourrait s'appeler, s'intituler « Conditions pour pour la condition pour la bénédiction. On va voir que dans son livre, il y a une première partie jusqu'au chapitre 8 où il parle de visions qu'il a reçues. Il a reçu une dizaine de visions, pratiquement en une nuit. Une vision est différente d'un rêve dans le sens où la personne est réveillée. Dieu peut parler par des songes, mais des fois il peut nous réveiller et nous donner une vision. Dieu, et je vous invite à partager ça, peut imprimer sur votre esprit quelque chose de fort et vous dites, mais à quoi c'est bon? Et on essaye, quand on se retrouve dans des réunions de prière le mercredi soir, de dire, est-ce que quelqu'un d'entre vous a un verset, une parole à donner? Est-ce que quelqu'un a reçu une image? Et moi, j'ai partagé la semaine dernière qu'en fait, on va y arriver, c'est dans ce passage, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit que Dieu agit. Et ça, justement, ça va décrire Zorobabel qui doit reconstruire le temple qui est détruit. Il y a des milliers de pierres sans dessus dessous. C'est une montagne. Il est découragé à l'avance. Mais Dieu lui dit par son esprit, c'est par mon esprit que ça va se passer. Et je disais que moi, j'étais un peu submergé avec beaucoup de tâches à faire à un moment donné et qu'en fait, ce verset m'avait encouragé. Parce que je me disais, mais il faut que je me lève plus tôt le matin, il faut que j'arrête de regarder les nouvelles, il faut plus que je perde de temps. Et Dieu m'a dit, calmos. Il parle le grec aussi. Hein. Tranquillou. Il parle provençal. C'est bien d'avoir le zèle, le désir, mais savoir que c'est lui qui va en définitive faire les choses, ça nous enlève un gros poids. On peut dormir et retrouver des forces chaque nuit. Il veut encourager, il va nous parler aussi du Messie. Il y a plus de prophéties relatives au Messie dans Zacharie que dans tous les autres petits prophètes. Les 11 autres petits prophètes ont moins de prophéties messianiques. Le livre de Zacharie est cité plus d'une quarantaine de fois dans le Nouveau Testament. Il y a des descriptions du Messie comme un roi, on verra ça au chapitre 9, comme une pierre, la pierre de l'angle, comme un esclave vendu pour 30 pièces d'argent. Ça, c'est dans Zacharie 11-12. Comme un berger qui est frappé et le troupeau est livré à lui-même, comme la branche ou le rejeton, comme le rédempteur glorieux et comme le dirigeant d'Israël. On va voir des réalisations dans le Nouveau Testament de certaines de ces prophéties. D'autres sont encore à réaliser. Et ce qui est merveilleux dans la prophétie, c'est qu'il y a toujours, ou le plus souvent, un accomplissement immédiat, un accomplissement à moyen terme, et un accomplissement à la fin des temps. Les théologiens, pour vous impressionner, diront il y a une réalisation eschatologique. Ça veut dire simplement les temps de la fin. Et un peu comme quand on voit une montagne, quand on fait des randonnées et qu'on veut monter à l'Archas, c'est le sommet qui domine les enfants à la montagne, on voit une colline qui se termine. On dit, ah ça y est, on est arrivé. Puis on arrive au sommet de cette colline, puis on s'aperçoit qu'en fait ça redescend et qu'il y a un autre sommet plus loin. Ah, on se dit, ah non, on s'est trompé, c'est celui-là. Et la prophétie, c'est un peu la même chose. On voit quelque chose sous notre nez, des fois c'est en ce moment, il se passe quelque chose qui est décrit par le prophète, et puis il y a quelque chose qui va se produire dans 500 ans peut-être, et puis à la fin des temps. Mais lui, c'est un peu comme quand vous avez un télescope, vous ne voyez pas des fois la distance qui sépare les collines. Vous voyez, il y a des moments, surtout à la montagne, ou à Saint-Martin, à la pénombre, à l'obscurité, on peut voir des séries de montagnes, les unes derrière les autres. Et le prophète, il a le même genre de vision lorsque Dieu lui révèle des choses. Ça peut être très précis dans le temps, mais bien souvent, Il voit la chose, mais il serait pas capable de vous dire exactement quand. Le livre de Zacharie n'est pas un livre facile à étudier, surtout si vous le prenez le matin, avant le petit déjeuner ou après votre café, en le lisant en suivant, sans aucune aide, sans aucune référence. Si vous êtes dans ce cas, si vous voulez quelque chose, il y a un livre excellent qui s'appelle « Le commentaire de Allais sur toute la Bible », qui est en vente à la librairie évangélique. C'est le premier livre que j'ai acheté quand j'étais nouveau chrétien. C'était le livre que recommandait Chuck Smith, parce que ça vous permet d'avoir des éléments qui vous permettent justement de faire ces rapprochements sans lesquels vous lisez sans savoir ce que vous lisez. Et c'est pas très drôle. Ça donne pas envie d'y revenir le lendemain matin. Surtout lorsqu'on est dans les généalogies. Aïe, aïe, aïe. Si vous demandez à Nancy, elle peut vous en mettre de côté ou en commander le commentaire de Allais. Une chose qui est simple, par contre, on connaît peu de choses de sa vie. On pense qu'il est mort parce que Jésus parle de lui, d'un Zacharie qui est mort entre l'autel et le lieu saint. On pense que c'était lui, mais on n'a pas tellement d'éléments, sauf la date de cette prophétie. On sait que c'était en 520. 520. Si vous devez changer votre password, vous vous rappelez les choses. Mettez votre prénom de votre chat, et puis vous ajoutez 520. Et comme ça, vous le saurez. La date de la prophétie de Zacharie, et c'était la même date que la prophétie d'Agée. Ils sont rentrés... On avait vu dans le premier verset de Agée, on peut le relire, la deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Là aussi, si vous dites « Zut, j'ai raté cet enseignement », vous pouvez le retrouver en ligne et voir ce que disait Agée. Agée, en fait, il était là pour encourager les gens qui étaient revenus à reconstruire le temple. C'était des volontaires, et on sait que les volontaires, ils sont pleins de zèle la première fois qu'ils font le travail. Mais la deuxième fois, c'est déjà moins enthousiaste, et ça va vite en descendant. Ils voulaient décrire Agée, il a décrit la gloire future du temple et la grandeur future d'Israël. Et vous vous souvenez, si vous étiez là, en fait, les gens qui disaient, mais c'est, ils pleuraient. Il y en avait qui pleuraient parce qu'ils trouvaient que c'était tout petit par rapport au temple précédent. Et on sait qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. Agée encourageait les gens à bâtir le temple. Il était très pratique. Il disait, regardez ce que vous faites. Votre maison, on voit que vous êtes passé chez Ikea, vous avez les derniers modèles en canapé, vous avez même mis des beaux panneaux au mur, c'est splendide chez vous. Mais le temple est toujours par terre. Un peu de culpabilité ne fait pas de mal. Nancy sait que moi j'ai utilisé l'argument dans le mauvais sens en disant que ce qui compte c'est de décorer l'église et qu'on n'a toujours pas peint notre chambre où on a emménagé depuis 2007. Parce que pour moi, la grandeur du temple est plus importante. Je plaisante juste un peu, mais eux c'était dans le sens inverse qu'il y avait un problème. Donc ils ont commencé, et puis au bout d'un mois, ils étaient découragés. Et c'est là que commence le ministère prophétique de Zacharie, qui va venir pour remotiver les gens, en les encourageant avec les bénédictions à venir. Et nous, on est tous prêts à écouter les bénédictions. On se dit « Vive le salut et toutes les bénédictions qui viennent ». Mais il les reprend très sévèrement au début Et encore une fois, c'était pas des mauvais chrétiens, on dirait aujourd'hui. Ils venaient de Babylone. Ils avaient laissé leur villa avec leur piscine, leur plantation, leur bétail. Ils étaient venus pour servir Dieu et reconstruire le temple. Mais là, devant les difficultés, oh, mañana, un peu d'espagnol, d'italien. Et donc, ils avaient besoin d'être motivés. Et voilà ce qu'il leur dit. Verset 2, en parlant de leurs ancêtres ou de leurs pères qui avaient désobéi et qui avaient été emmenés en captivité parce que Dieu leur avait promis que s'ils n'obéissaient pas, ils étaient patients, mais ils finiraient par les envoyer en captivité. Et il dit, verset 2, « L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. » C'est une mauvaise traduction. Ça ne rend pas la force du texte original. Le texte original, ça commence par « colère ». Dieu a été en colère, plein de colère contre vos ancêtres qui n'ont pas obéi. L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. C'est très fort. Et il leur dit, il va leur donner de bonnes nouvelles. Mais il leur dit, il y a une condition aux bénédictions. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ou le maître de toutes les armées, de toute la création. C'est un terme qui revient trois fois dans la phrase. Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce n'est pas moi qui parle. Et entre parenthèses, ce n'est pas Pierre qui annonce la Bible, c'est la Bible qui vous parle par l'Esprit Saint. C'est ce que dit l'Éternel. Et ce n'est pas un petit Dieu local, hein. c'est pas le Dieu de Nice et Saint-Laurent. Hein. C'est le maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Notez qu'il ne dit pas « revenez à mes lois, à ma loi, revenez à mes rituels, revenez à moi de tout votre cœur. » Dieu, aujourd'hui, me dit, nous dit, vous dit « revenez à moi de tout votre cœur. » Pas seulement en parole, en action, vous pouvez venir à l'église, vous pouvez donner la dîme, vous pouvez aider des frères à déménager. Tout ça, c'est bien, mais ça doit dériver d'un motif dans votre cœur où vous voulez être dans l'intimité du maître de l'univers. Quel programme ! Il nous invite, c'est lui qui nous invite. Revenez à moi, et moi, alors, je reviendrai à vous. La condition pour être béni, c'est l'obéissance. C'est d'aller à Dieu. Et souvent, on présente l'évangile en disant « ça va être formidable, ça va te donner une meilleure vie ». Sans que les gens réalisent qu'en fait, sans ce salut, ils sont perdus pour l'éternité. Imaginez que vous soyez dans un avion et que l'hôtesse vous dise, avant que vous rentriez dans l'avion, « tenez, prenez ce parachute et mettez-le ». Ah bon ? Qu'est-ce que je fais avec ce parachute ? Essayez de vous asseoir, vous passez déjà. Vous ne pouvez pas vraiment vous asseoir confortablement, vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'appui-tête, vous avez ce truc dans le dos. Et puis vous commencez à remarquer qu'autour de vous, il y a des gens qui... Des gens qui commencent à se moquer de vous, de votre foi dans le parachute. Et au bout d'un moment, vous dites, c'est ridicule, je ne vois pas l'intérêt. Elle m'a dit de prendre un parachute, mais je ne sais pas pourquoi il faudrait que je prenne un parachute. Comment est-ce qu'il faut faire pour que vous compreniez qu'il y ait vraiment besoin d'un parachute ? Ici, votre capitaine, Sébastien Petrignani. Je vous annonce que nous venons de perdre le quatrième moteur, nous n'avons plus de puissance et nous allons nous écraser Je prie pour vous, essayez d'attraper un des derniers parachutes qui restent. Les gens se battraient pour mettre le parachute. Ils vont se battre. Si les gens savaient ce qui les attend, ils se battraient pour entrer dans l'église. C'est une illustration formidable d'un dénommé Ray Comfort qui a un ministère d'évangélisation qui s'appelle Living Waters. Mitch et Christine, Maria et Manu Brambilla font partie de ce ministère d'apprendre qu'il y a besoin, qu'on est perdu. Il y a une mauvaise nouvelle à donner avant de donner la bonne nouvelle du salut. Et c'est ce que fait Zacharie. Il dit, vous êtes dans la panade. Il y a des bonnes nouvelles qui vont suivre, mais seulement si vous revenez à moi. Et moi, je vais revenir à vous. Et c'est encore une fois, c'est le maître de l'univers qui dit ces choses. Il s'engage. Et il continue, ne soyez pas comme vos ancêtres auxquels les premiers prophètes proclamaient « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. » Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Dieu nous dit, les gens qui sont partis en déportation à l'époque de Babylone, c'est parce qu'ils ne m'obéissaient pas. Il faut que vous m'obéissiez. Les premiers prophètes l'ont dit, ils les ont prévenus. Et encore une fois, c'est important de réaliser qu'il parlait à des gens qui croyaient en Dieu. Il veut parler à des chrétiens qui ne sont pas trop engagés ou pour qui Dieu ne prend pas la première place. Toutes les autres choses, dans ce cas, qui passent avant lui, c'est ce que la Bible appelle des idoles. La dévotion, l'engagement, les pensées qu'on devrait avoir pour lui, on les met sur le dernier ordinateur qu'on est en train de rêver de s'acheter, ou le dernier iPhone, ou la dernière voiture, que sais-je. Le Saint-Esprit vous parle. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas obéi. Ils n'ont même pas fait attention à moi. Vous avez été sans doute dans des situations où vous arrivez et personne ne vous parle, personne ne fait attention à vous. Ce n'est pas quelque chose d'agréable à vivre. C'est pour ça qu'il est important, et je vous demande d'être accueillant pour les nouvelles personnes ici. Une personne que vous ne connaissez pas, présentez-vous, demandez-lui son nom, parlez à cette personne. Certains disent « Ah, je ne la connais pas, donc je vais parler à quelqu'un que je connais ». Non, ce n'est pas ça l'accueil chrétien. Renoncez à vos mauvaises voies, mauvais chemin, mauvaises décisions et vos mauvaises actions. Et puis il continue, il est urgent d'agir. Il est urgent d'obéir. Des fois on se dit, bon, ben, j'ai pas trop le temps cette semaine de lire ma Bible, ou de j'ai pas trop d'argent pour en donner un peu au Seigneur. Il nous fait savoir que, où sont passés vos ancêtres? Ils sont morts. Et les prophètes, est-ce qu'ils vont vivre éternellement et continuer à vous prévenir? Non, sous-entendu, ils sont morts aussi. Verset 6, « Cependant, mes paroles et mes prescriptions dont j'avais chargé mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos ancêtres? Ils sont revenus à moi et ils ont reconnu l'Éternel, le Maître de l'univers, nous a traités comme il avait décidé de le faire, conformément à notre conduite et à nos agissements. » Ils n'ont pas obéi sur le moment, mais quand ils seront retrouvés dans la douleur, dans l'affliction, dans l'exil, ils se sont rappelés, on nous avait pourtant prévenus. Mais là, c'est trop tard. L'obéissance, elle n'est pas à remettre au lendemain. Quand mes enfants étaient plus petits et que je leur demandais de faire la vaisselle, ils étaient toujours prêts à la faire. Je disais, non, mais c'est pas demain matin qu'il faut la faire, c'est maintenant. Et Dieu nous dit, c'est pas demain matin ou dans 6 mois, si vous avez reçu un appel, si vous avez senti qu'il vous demande de faire quelque chose, si vous avez senti qu'il vous demande de montrer de l'hospitalité, d'héberger quelqu'un, si vous a montré que vous devez faire un don, qu'une personne est dans la difficulté, que vous devez rendre visite à une autre personne, pour aller lui témoigner de l'amour de Christ, lui montrer que Dieu est réel, parce qu'elle a peut-être prié que quelqu'un vienne la voir, cette personne. C'est maintenant qu'il faut obéir. Et je rappelle, parce que vous pourriez vous faire des idées, je ne pense pas trop, si vous ne me connaissez pas, je me prêche à moi-même. Est-ce que moi aussi j'obéis tout de suite ? J'ai encore pas appelé une personne que le Seigneur m'a dit d'appeler, ça fait déjà 2 semaines. Mais j'ai trop de travail, il faut que je prépare un message. Il faut que j'aille couper l'herbe à la montagne. Il faut que j'aille fendre du bois. J'en ai pas fendu. C'est Jolie qui a fait tout le travail. L'obéissance. Venez à moi et je reviendrai à vous. Ça, c'est l'histoire du fils prodigue. Il avait pris l'argent de son héritage pour aller vivre la grande vie, pour aller faire la Nouba, c'est de l'arabe. Et puis rapidement, les nombreux amis qu'il avait quand il avait de l'argent et qu'il leur payait tout, le champagne, les boîtes de nuit, ça, ils ont disparu. Il n'y avait plus personne. Et pour manger, il s'est fait embaucher et il nourrissait des cochons. C'est une histoire si simple que Django a un petit livre qui parle du cochon qui avait vu ce fils prodigue. Jésus a utilisé cette illustration pour nous dire que oui, il avait tout dilapidé et il s'est aperçu qu'il vivait beaucoup plus mal que les esclaves de son père, les employés de son père. Et il s'est dit, je vais revenir. Il dit qu'il est revenu à ses sens. Il était dans la folie quelque part. C'était stupide de penser que la vie de faire la fête, c'était mieux que d'avoir une vie au service du Père. Et donc, il décide de revenir. Il dit à son Père, mais moi, je serai qu'un esclave, ça me suffira. J'ai pas besoin. Il pensait ça. Je dirais à mon Père, j'ai pas besoin que tu me fasses dormir dans la maison. Je vivrai avec les cochons et avec les esclaves, c'est pas grave. Donc il revient au Père. Il revient au Père et le Père l'attendait. Le Père revient à lui. Le Père l'attendait et du bout de la route, il le voit, il est plein de joie, il décide de faire la fête. Et un autre sermon à donner sur le frère qui était jaloux de ce qu'on faisait la fête pour celui qui était perdu. Mais si on vient à Dieu, il vient à nous. Il y a aussi la blague qu'on racontait à l'époque, vous n'avez peut-être pas connu, mais dans les voitures, dans les camionnettes, dans les camions, avant, à l'avant, il y avait qu'un siège. Maintenant, il y a des sièges avec des ceintures de sécurité. Avant, on pouvait se mettre un peu à 4 ou 5 devant. Et il y avait une fois, on raconte l'histoire d'un couple, le mari qui était au volant et la femme qui était bien à droite. Puis elle voyait des voitures qui venaient, elle voyait un jeune couple qui... La femme était presque sur le gars ou à côté de lui, le tenant. Elle devient romantique et dit, tu te rappelles ? Tu te rappelles quand on était jeunes, qu'on avait commencé à se fréquenter ? On était comme eux, j'étais à côté de toi. Tout près de toi. Et le gars lui dit, mais moi je suis toujours au volant, c'est pas moi qui ai bougé. Et Dieu, c'est souvent comme ça. On le trouve loin, mais c'est pas lui qui est pas prêt à nous accueillir, à nous bénir. C'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Amen.